Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'Europe est-elle prise au piège de ses propres règles ? Les ministres des Finances de la zone euro se sont mis au diapason de la Commission européenne hier. À leur tour, ils demandent au gouvernement italien de revoir son projet de budget pour 2019. Le 23 octobre dernier, la Commission l'avait rejeté, dénonçant, je cite, « une déviation claire, nette, assumée par rapport aux règles européennes ». L'Italie a jusqu'au 13 novembre pour amender son budget. Alors, ce qui n'est pour l'instant qu'un rappel à l'ordre s'inscrit dans un contexte politique particulier, à la fois en aval des élections législatives italiennes qui ont porté au pouvoir la coalition formée par le Mouvement 5 étoiles et la Ligue, et en amont du scrutin européen de l'an prochain où le score des nationalistes sera un des principaux enjeux. Alors un tel contexte doit-il peser au moment de faire appliquer les règles européennes ? La question s'est déjà posée en septembre lors du déclenchement de l'article 7 par le Parlement européen à l'encontre de la Hongrie pour manquement au respect de l'état de droit. Une application trop stricte de ces règles, budgétaires, politiques, ferait, disent certains, le jeu des extrêmes. Mais ne rien en faire serait également un aveu de faiblesse, voire pire, de renoncement au projet européen. Alors l'Europe est-elle prise au piège de ses propres règles ? C'est la question du soir, en compagnie de trois invités. Marion Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste des questions européennes et des relations franco-allemandes, maître de conférence à Sciences Po Paris. Pour discuter avec vous, Benjamin Mass-Stamberger, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste économique, on peut vous lire notamment sur votre blog Basculement, c'est au pluriel. Vous avez publié, c'était en 2014, au Lien qui libère, Casser l'euro pour sauver l'Europe. Et vous êtes membre du comité Les Orwelliens, juste en un mot, ce comité.
C'est un groupe de journalistes qui sont attachés notamment à la souveraineté nationale et qui regroupe Natacha Polony et d'autres journalistes un peu de tous médias, mais qui sont un petit peu sur cette idée-là.
Notre troisième invité est en duplex depuis Bruxelles. C'est Guillaume Clossa. Bonsoir.
Bonsoir, oui.
Vous êtes le fondateur et le président d'honneur du think tank Europa Nova. Vous êtes un des dirigeants de l'association Civico Europa, association internationale, transnationale en tout cas, qui vise à relancer le projet européen. Puis je renvoie à l'ouvrage, au dernier ouvrage que vous avez publié, c'était chez Grasset en 2014, « Une jeunesse européenne ». Alors commençons, si vous le voulez bien, par la question du budget italien, avec donc hier l'Eurogroupe qui confirme les observations qui avaient été formulées il y a quelques jours de cela par la Commission européenne, un rejet du budget présenté à l'État par l'Italie. Tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que sur le fond, vous considérez, les uns et les autres, que le budget italien n'est pas conforme avec les règles européennes ? Je vais commencer par vous, Marion Gaillard.
Il est pas conforme dans le sens où l'Italie s'est engagée sur un objectif qui est celui de 0,8% de déficit public au mois de juin. Donc, c'est-à-dire l'actuel gouvernement a accepté cet objectif lors du Conseil européen du 28 juin 2018 et lors du Conseil des ministres de l'Ecofin en juillet. Donc, c'est pas conforme aux objectifs, c'est pas conforme aux règles qui sont celles qu'on appelle du two-pack et du six-pack qui datent de 2011 et 2013, qui ont été prises en plein milieu de la crise de la dette pour renforcer le pacte de stabilité et de croissance. Donc voilà, c'est pas conforme aux règles. Après, pour autant, les règles sont-elles pertinentes ? On pourra en reparler.
Oui, parce que notamment dans ces règles, je vais poursuivre le tour de table, mais il y a celle qui est sans doute la plus connue aujourd'hui, qui est les 3% de déficit budgétaire. Il se trouve que dans le projet de budget italien pour 2019, le déficit prévu est de 2,4%. Alors certes, c'est bien au-delà de ce qui avait d'abord été annoncé, mais ça reste quand même dans les clous. Ce qui déjà pose un petit problème de compréhension, Benjamin Mass-Stamberger.
Oui, absolument. Vous avez bien posé les choses. C'est-à-dire qu'au départ, on a le traité de Maastricht qui définit ces 3% de déficit budgétaire autorisé. Donc là-dessus, le gouvernement italien est dans les clous. Mais comme ça a été dit, ce dispositif a été renforcé après la crise, effectivement, par toute une série de dispositifs comme le two-pack, comme le six-pack entre 2011 et 2013. Mais ces dispositifs, si vous voulez, effectivement, ils existent, mais on peut aussi en contester la légitimité, puisqu'ils ont été mis en œuvre dans un moment de crise financière extrêmement importante, où un certain nombre de pays du Sud avaient la nécessité d'avoir une aide financière de la part de l'Europe et de la part de l'Allemagne. Et donc l'Allemagne a imposé des règles extrêmement restrictives sur le plan budgétaire, une véritable carcan austéritaire, qui en réalité a des conséquences totalement auto-référentielles, c'est-à-dire que l'austérité austérité budgétaire crée de la faible croissance, qui elle-même crée des déficits budgétaires, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation.
Mais par rapport à ces règles que vous dites, que vous qualifiez de restrictives, est-ce que vous dites aujourd'hui le budget du gouvernement italien, il est conforme ou il n'est pas conforme par rapport à ces règles, justement?
Alors, du strict point de vue du respect technique de ces règles, effectivement, il n'est pas conforme. Il n'est pas conforme à ce qui a été dit par le précédent gouvernement. En revanche, il y a aussi la question de la légitimité démocratique, c'est-à-dire qu'un gouvernement a le droit de revenir sur les engagements du précédent gouvernement.
Alors, on va y arriver très vite, hein, justement, sur cette question. Pour terminer notre premier tour de table, Guillaume Clossa, sur la conformité, alors technique, là encore, de ce budget.
Techniquement, par rapport aux différents engagements qui ont été pris par les États membres, non, il n'est pas conforme. Il faut voir la dynamique d'ensemble, c'est-à-dire que il y a le déficit et puis il y a la dette, et le niveau de dette italienne est extrêmement élevé. Et l'engagement du précédent gouvernement, c'était justement de réduire la dette en réduisant notamment le déficit. Le niveau de dette est autour de 130%, ce qui est un des records pour un grand pays de l'Union européenne.
C'est ce qui fait dire d'ailleurs au commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici quand il compare, quand certains comparent justement le niveau de déficit prévu par la France 2,8% et celui de l'Italie 2,4%, il dit bah oui, mais la grande différence c'est que le niveau de la dette pour la France est soutenable, ça n'est pas le cas de celui de l'Italie, Guillaume Clossa.
Deux commentaires. D'une part, il y a, en effet, il y a la soutenabilité, et puis il y a l'expression politique. Et le jeu notamment de Matteo Salvini, c'est de dire, mais nous, de toute façon, on ne va pas respecter parce qu'on ne va pas se contraindre aux règles européennes et se mettre en défiance. S'il n'y avait pas eu cette défiance volontaire, je pense que l'appréciation de la Commission aurait pu être différente. Et dans ce cas-là, il aurait fallu regarder projet d'investissement par projet d'investissement. Je vais vous donner un exemple très concret. L'Italie dit, on va faire des investissements d'avenir, on fait une priorité à l'intelligence artificielle qui est le grand objectif chinois, américain, etc. Mais si vous regardez en vérité dans le budget, il y a quasiment rien pour l'intelligence artificielle. Donc il y a un écart entre ce qu'ils disent et la réalité. Et c'est cet écart qui a été sanctionné. Puis deuxièmement, juste un détail, c'est que la Commission, formellement, n'a rien rejeté du tout. Elle a juste, dans son rôle de gardienne des traités, c'est-à-dire de gardienne des décisions qui ont été prises par les États membres, dit que c'était pas conforme. Moi, je pense que la Commission aurait dû rappeler qu'elle ne faisait que faire respecter des règles qui avaient été prises par les États membres, que ces règles, qu'on peut discuter d'ailleurs. Mais c'est pas la Commission qui d'elle-même rejette le budget italien, et ça c'est important parce que la perception c'est qu'il y a la méchante Commission qui est la technocratie européenne qui est en train de faire du mal à un pays qui est l'Italie. C'est comme ça que c'est perçu et c'est vendu par les populistes. C'est pas du tout la réalité. C'est pas le rôle de la Commission.
On n'en est pas effectivement aujourd'hui en tout cas au stade des sanctions. L'Italie a jusqu'au 13 novembre pour présenter un projet de budget amendé, même si le gouvernement italien dit qu'il va maintenir son budget tel qu'il est. Benjamin Mas, Stamberger, vous évoquiez il y a un instant la question de la légitimité démocratique. Alors c'est vrai que ça fait vraiment partie des sujets qui sont évoqués, pas seulement d'ailleurs sur cette question italienne, Marion Gaillard, mais très souvent sur la question européenne. C'est-à-dire effectivement, on a un gouvernement qui est issu du suffrage universel, qui applique aussi un programme pour lequel il a été élu. Donc, on peut considérer qu'il a raison de mener cette politique. Face à lui, on a une Commission européenne à qui on reproche très régulièrement justement son manque de légitimité démocratique. Est-ce que c'est une bonne façon pour vous de poser la question ?
Alors, non. je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. D'une part, la Commission, effectivement, elle n'impose pas aux États membres de suivre son avis. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle rejette éventuellement. Mais ensuite, ce sont les États membres au sein du Conseil des ministres qui vont voter les sanctions. Effectivement. Donc c'est la décision finale, elle ne revient pas à la Commission, elle revient aux États membres. Ça, c'est quand même très important de le dire.
Qui, eux, ont la légitimité.
Qui, eux, ont la légitimité au niveau de leurs États. Par ailleurs, la Commission, on dit toujours qu'elle n'a pas de légitimité démocratique. J'aimerais juste qu'on se pose deux minutes pour rappeler que la Commission européenne, son président est élu par le Parlement européen, et le Parlement européen étant lui-même élu au suffrage universel direct par nous-mêmes, les citoyens de l'UE, et qu'ensuite, ses membres, c'est-à-dire les commissaires, sont auditionnés par le Parlement européen, et l'audition d'ailleurs de Pierre Moscovici avait été assez sévère en 2014, et ensuite le Parlement européen investit la Commission dans son ensemble. On est dans un système qui se rapproche au fond de la Troisième République française avec une sorte de double investiture. Donc la Commission, dire qu'elle n'a aucune légitimité démocratique, c'est faux, c'est vraiment faux. Et ensuite, elle ne décide pas de tout puisque ce sont finalement les États qui décident.
Mais il y a quand même deux légitimités
alors,
qui s'opposent.
Alors, vous m'avez posé la question de ces deux légitimités. On est sur un problème qui est beaucoup plus large, effectivement, que le budget ou quoi que ce soit. On est sur le problème de l'essence même de la construction européenne. Puisqu'on a finalement un décalage, parfois, entre le temps long de l'engagement européen et le temps court de la vie politique nationale. Et donc, il arrive effectivement que des gouvernements soient élus dans un État membre et veuillent remettre en cause des règles collectivement adoptées, je le rappelle, au niveau de l'Union européenne. Donc là, est-ce qu'ils sont légitimes à le faire? Ça se discute, clairement, on y reviendra, parce que vous me faites signe.
Je vous fais signe que je vais passer la parole à Benjamin Bastenberger et ensuite à Guillaume Clossat qui lui aussi veut réagir. Benjamin Bastenberger.
Oui, je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Il y a des procédures de sanctions, donc ça signifie qu'il y a une possibilité au niveau de la Commission d'exercer un certain nombre de mesures coercitives pour faire rentrer l'Italie dans un certain nombre de règles budgétaires qui remettent en cause les décisions qui ont été prises démocratiquement. Ces décisions, on peut être d'accord, pas d'accord avec Matteo Salvini, avec son programme, avec ce qu'ils veulent faire, y compris au niveau économique, etc. Mais là, il y a bien une procédure de sanction qui n'est pas validée par l'ensemble des États, puisque sinon l'Italie s'y opposerait. Donc c'est
à
validé.
La majorité. C'est une majorité inversée.
Oui, mais il y a un certain nombre d'États et la Commission qui imposent et qui ont la capacité d'imposer des sanctions qui peuvent se monter quand même à plusieurs milliards d'euros à un pays qui souverainement a décidé un programme économique. Là, j'ai entendu
Guillaume Clossat. Mais sur le principe, Benjamin Bastenberger, c'est-à-dire, c'est quand même logique qu'à partir du moment où il y a des règles, quand on déroge à ces règles, alors après on peut remettre
oui
en cause
non.
ces règles, mais il faut bien trouver une façon de les faire respecter, sinon elles servent à rien.
Oui et non. Alors, ces règles, encore une fois, elles n'ont pas été adoptées, elles n'ont pas été validées par le gouvernement italien actuel. Le gouvernement italien actuel, il a développé un programme, il a mis ce programme devant les électeurs, il a été élu et ensuite il a déposé un budget qui, il se trouve, déborde de l'épaisseur du trait parce qu'on est encore une fois en dessous des 3%. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est sur le fond, sur la légitimité de ces règles, parce que c'est des règles, encore une fois, qui sont totalement contre-productives, qui crée le contraire de l'effet qu'il est souhaite supposé produire et qui fait que ensuite effectivement on a des pays qui se retrouvent dans la situation de la Grèce à laquelle la Grèce on a quand même imposé des mesures qui étaient en totale contradiction avec le programme d'Alexis Tsipras, la même chose sur l'Italie. Donc on peut pas, si vous voulez, à la fin s'étonner effectivement ensuite qu'on ait des gouvernements populistes et que ces gouvernements populistes ne respectent pas des règles et qui elles-mêmes produisent des dysfonctionnements. Donc tout ça est totalement kafkaïen on voit bien qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements européens qui sont massifs. On peut pas rester là à discuter sur avant la virgule, après la virgule. Il y a un problème démocratique qui est majeur et je pense que les citoyens le voient de manière évidente, quoi.
Guillaume Clossat.
Écoutez, ça n'a rien d'évident ce qu'assure Benjamin. Regardez les pays où il y a des gouvernements populistes. La Pologne, pays où le chômage est très très bas et qui profite massivement de l'Union européenne, et donc paradoxalement, les Polonais sont très pro-européens. La Hongrie, qui est un des premiers contributeurs en termes relatifs au projet européen. Il n'y a pas un lien de cause à effet, et il n'y a même pas un lien entre la situation sociale des gens et le rapport à l'Europe. Je pense qu'on est dans une transformation beaucoup plus large où, parce que le monde dans lequel on est né était un monde dominé par l'Occident et que cette domination elle est finie, les gens cherchent des repères. Et la manière la plus naturelle de chercher des repères, c'est le repli national.
Mais Guillaume Clossat, on peut tout à fait être pro-européen et contester les règles des institutions européennes.
Tout à fait d'accord. Et un débat sur les règles européennes, ça fait sens et ce débat il a lieu en permanence. Mais à partir du moment où le système, on a une monnaie commune et que cette monnaie commune suppose un certain nombre de règles auxquelles tout le monde doit souscrire, eh bien il est normal que ceux qui ont en commun cette monnaie les respectent. Après ils peuvent contester ces règles.
Ils peuvent
les contester, mais
est-ce que ça fait sens, en tout cas, le débat sur les règles? Si on prend par exemple cette phrase qui me paraît assez stupéfiante quand même, de l'ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, qui a été relevé par Mediapart, qui aurait dit ceci dernièrement, justement après la question la présentation du budget italien. Les règles de l'Union européenne doivent être respectées, même quand elles ne sont pas intelligentes. Marion Gaillard.
Alors ça.
Est-ce que c'est pas une façon, est-ce que c'est pas aujourd'hui l'approche justement des institutions européennes, c'est-à-dire une approche qui n'a rien de pragmatique, qui ne prend pas en compte le contexte politique, mais qui est une approche peut-être purement technocratique. Il y a des règles, on les applique. Point barre.
Alors, je pense que quand il y a des règles en démocratie, on les applique. Mais Benjamin nous dira que l'Union européenne n'est pas démocratique. Mais normalement, il y a des règles, on les applique, même si on n'est pas d'accord. Quand on vote une loi en France, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette loi, vous l'appliquez normalement. Et puis, vous essayez de faire changer la majorité après. C'est le principe de la démocratie. Par ailleurs,
mais
c'est
la
faux.
Loi, on peut l'appliquer. C'est-à-dire, il y a aussi une latitude dans la façon d'appliquer la loi.
Mais il y a une latitude parce que la latitude, elle a été très largement mise à profit par l'Italie ces dernières années, qui ne respectait pas les règles, par la France, qui ne respectait pas les règles non plus. On voit aussi que ces règles, finalement, dans le respect de ces règles, le Portugal a réussi à mettre en place depuis 2015 une politique de relance avec, au départ, une procédure pour déficit excessif contre lui. Et finalement, cette procédure a été retirée par la Commission et le Portugal est rentré dans les clous. Et là, je suis d'accord avec vous, Benjamin. Les règles, elles peuvent être parfois stupides et contre-productives. Et quand un pays s'en éloigne, il arrive à rentrer dans les clous du déficit. Donc, là encore, il y a deux questions très différentes. C'est celle de la pertinence des règles et celle de leur légitimité. Elles ne sont pas nécessairement pertinentes, pour autant, elles ont une origine démocratique. Vous ne pouvez pas nous laisser croire que le traité de Maastricht ou le Two-Pack ou le Six-Pack sont tombés du ciel. Ils sont issus de négociations entre des États qui, pour les traités, les ont négociés, signés, ratifiés. Pour le Six-Pack et le Two-Pack, il s'agit de règlements qui ont été proposés par la Commission, votés par le Conseil des ministres et approuvés par le Parlement européen. Donc, ces règles ont une légitimité démocratique et ne sont pas le fruit juste de la volonté allemande.
Alors, sortons peut-être justement de cette question de la légitimité démocratique des règles, mais sur la façon dont on les applique et dont les institutions européennes les appliquent, Benjamin Massastamberger. Est-ce qu'il y a un problème d'inflexibilité aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, et ça remonte pas aujourd'hui. Simplement, pour revenir en deux mots, un tout petit peu en arrière par rapport à ce qui a été dit aussi sur le Portugal, parce que, si vous voulez, c'est très intéressant, on a parlé de la monnaie commune, mais quel est le problème ? C'est le problème qu'on a une monnaie commune, ce qui fait que les économies ne peuvent pas s'ajuster, les différences de compétitivité ne peuvent pas se régler par la monnaie. Et donc, dans la crise, tous les problèmes ont été réglés de manière massive, par une politique d'austérité, par une baisse des salaires dans tous les pays d'Europe du Sud. Ça a mis le continent dans sa globalité dans une situation catastrophique, de semi-dépression. Les 10 années qui ont passé sont celles où la croissance a été, en zone euro, la croissance a été plus faible que partout dans le monde. Et la réaction, si vous voulez, des autorités européennes et de l'Allemagne en 2011 à cette catastrophe, ça n'a pas été de dire on va remettre en question le système monétaire, le mode de fonctionnement de l'euro. Ça a été de dire on va rendre les règles restrictives qui nous ont mis dans cette catastrophe encore plus restrictives. C'est ça le two-pack, le six-pack, c'est ça. C'est qu'on fait un tour supplémentaire de vis sur des gens qui sont déjà par terre et à qui on a dit bon bah vous signez là parce que sinon de toute façon vous n'aurez pas vos aides financières. Donc on en est là et depuis évidemment l'Italie est dans une situation économique catastrophique, dans une situation de chômage massif, je ne parle même pas de la Grèce. Et donc les nouveaux dirigeants européens avec en plus les problèmes d'immigration arrivent là-dessus et si vous voulez, ils disent, nous, vos promesses européennes, on n'y croit plus. Il faut comprendre tout ce passif qu'il y a entre l'Italie et l'Europe. Donc, si la seule réaction, si vous voulez, de l'Europe par rapport à tous ces dysfonctionnements, c'est de dire, on vous tape dessus encore plus fort que ce qu'on a fait les 10 dernières années, la prochaine fois, ce ne sera pas un gouvernement populiste, ce sera un gouvernement néo-fasciste, effectivement. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Ou bien est-ce qu'on veut être un peu intelligent ? Si vous voulez relancer une économie, effectivement, il faut qu'il y ait par terre, il faut de l'investissement. Si vous voulez faire de l'investissement, il faut dépenser un petit peu. C'est de l'économie, si vous voulez, de première année, hein, d'étudiants. Donc c'est là où on a des règles technocratiques, bureaucratiques, aveugles, qui produisent l'inverse, encore une fois, de ce qu'elles veulent produire. Et on comprend pas. La commission Juncker avait dit on va être plus tolérant. Et là, on voit que c'est pas du tout le cas.
Marion Gaillard.
Je suis d'accord sur le constat de la stupidité des règles. Je parlais bien de la différence.
Vous comprenez ce que vous dites?
Oui, non. Je parlais de la différence entre dire qu'elles ne sont pas démocratiques dans leur origine.
Ça, d'accord.
Et leur pertinence économique. Ouais. Et économiquement, clairement, je suis d'accord avec vous. L'Europe a été critiquée entre 2010 et 2015 pour ses choix austéritaires par des économistes internationaux, dont des économistes du FMI qui sont pas réputés pour être des révolutionnaires échevelés. Donc,
absolument.
On est à peu près tous d'accord sur le fait que l'Europe
n'a
pas fait les bons choix. Donc ça, je partage complètement ce constat. Mais après, il y a une bataille idéologique à mener au niveau européen contre les règles ordo-libérales, le dogme ordo-libéral. Ça, il faut mener la bataille idéologique au niveau du Parlement européen notamment.
Ça fait aussi 10 ans qu'on dit ça sans résultat.
Guillaume Clessa ?
Non, mais plusieurs choses. D'abord, la crise économique qu'on a vécue, elle nous vient des États-Unis. Elle est arrivée en 2007, et les règles dont on parle, nous ont été imposées en 2011-2012. Et le creux de la crise, et là où la situation a été la plus difficile pour l'Europe, c'était entre 2007 et 2011. Donc attention. Deuxièmement, sur l'Italie, il y a un problème récurrent avec l'Italie, c'est que même quand elle ne respectait pas les règles, ça n'allait pas bien. Il y a un niveau de chômage chez les jeunes qui est extrêmement élevé. Il y a un gros problème, c'est qu'une partie de l'économie est toujours au noir. Il y a des phénomènes mafieux, et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Et donc, la situation italienne particulière, avec une classe politique qui, depuis 25 ans ou 30 ans, est décriée en interne, il y a un moment où les gens ayant changé alternativement, ils font venir des populistes. Et c'est normal. Et malheureusement, et donc le sujet pour moi, pour l'Italie, c'est que ce pays doit retrouver une administration forte et digne de ce nom, qu'elle doit retrouver des dirigeants qui aient des comportements éthiques, et que la fiscalité italienne doit aussi marcher correctement, et que toute cette économie au noir qui est très importante dans l'économie italienne, eh bien, il faut la remettre dans des rails de droit commun.
Oui, mais est-ce qu'il y a des problèmes, Guillaume Clossa,
on met tout sur l'Europe.
Guillaume Clossa, par rapport justement au gouvernement italien, est-ce que un des problèmes politiques aujourd'hui, notamment à quelques mois des élections européennes, ça n'est pas le fait que ce qui pour l'instant ne sont que des remontrances, soient adressées à ce gouvernement en particulier, c'est-à-dire un gouvernement au sein duquel l'extrême droite a une place importante, et ça peut aussi apparaître comme une façon de sanctionner un régime politique qui ne convient pas aux autres pays européens?
Oui, mais enfin, il y a des procédures, la Commission, elle doit jouer son rôle.
Oui, mais faut bien penser aussi à l'impact politique des décisions qui sont prises.
Bien sûr, mais soyons très clairs, Salvini a créé une pression médiatique pour forcer la Commission à prendre la vie qu'elle a prise. Si le même gouvernement italien avait dit « Attention, on fait des efforts, on vise des investissements vraiment de qualité et avérés, etc. », la position de la Commission n'aurait pas été la même. Et là, il a joué avec le feu et il a dit « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Comprenez qu'il y a, aussi un jeu politique italien qui est fait à propos et qui pousse la Commission à prendre la décision telle qu'elle la prend, parce que les Italiens n'ont donné aucun signe permettant de dire les investissements on va les faire, mais ce sont des investissements de qualité, et d'ailleurs on a un vrai plan, mais non, tout ça c'est pas vérifiable.
Benjamin,
vous comprenez qu'il y a une malveillance et il y a une volonté de créer une tension avec l'Union européenne pour en jouer pour les élections. Il faut pas se tromper de qui joue avec le feu.
Non, je crois pas. Je crois que la provocation, elle vient pas du gouvernement italien. Le gouvernement italien, alors il y a deux composantes, donc elles sont pas forcément d'accord sur tout, mais les deux composantes, elles avaient un programme économique, le mouvement 5 étoiles plutôt keynésien, avec un revenu universel, etc. Du côté de la Ligue, on avait plutôt des baisses d'impôts. On a par ailleurs des dépenses sur les infrastructures, donc ils sont là, ils ont appliqué. S'ils avaient vraiment voulu être jusque-boutistes, ils auraient dépassé les 3%. Là, au contraire, par exemple, les baisses d'impôts ne s'appliquent uniquement que sur certaines entreprises. On aurait pu dire on fait du Trump, on fait du 4% de déficit. Pas du tout. Donc c'est plutôt la Commission qui, en réagissant de manière violente, a créé des réactions effectivement brutales de la part des populistes. Mais ce que dit Guillaume Clossa est très intéressant. Dans quelle mesure la Commission est légitime à dire quelle est une politique qui concrètement, mesure par mesure, est efficace, une autre qu'elle n'est pas, surtout quand on voit son track record des 10 dernières années? Il y a des mesures de relance, il y a des mesures en faveur des entreprises, de l'investissement, il y a des mesures en faveur des infrastructures. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas à la Commission européenne de dire vous n'avez pas parlé d'intelligence artificielle, donc vous êtes hors des clous. Là, je pense qu'on est dans un un truc complètement délirant.
Marion Gaillard, pour rester toujours sur ces règles européennes. Guillaume Claus, rapidement, puis ensuite je repasse la parole à Marion Gaillard.
Mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il n'y avait pas de réalité sur l'affichage du gouvernement Conte, du gouvernement Salvini, du gouvernement Conte. J'ai pris un exemple très concret pour montrer qu'il y avait un écart entre ce qui était dit et ce qui était fait. C'est tout. Et donc, je dis juste que ce gouvernement est populiste et joue avec le feu parce qu'il dit qu'il dit des choses et il fait exactement le contraire. C'est simplement tout. Par ailleurs, on peut critiquer la commission. Peut-être qu'elle a insuffisamment rappelé le rôle qu'elle ne faisait que faire respecter les décisions prises par les États et qu'elle était uniquement la garante des traités. Ça, c'est possible. Mais il faut aussi rappeler que la situation européenne aujourd'hui est bien meilleure que il y a 10 ans. On a créé depuis 5 ans, on a créé 15 ou 16 millions d'emploi dans l'Union européenne. L'Union va plutôt mieux que toute une partie des régions du monde, et la situation européenne actuelle est pas mauvaise.
Manifestement, en tout cas, sur le terrain électoral national, c'est plus compliqué.
Marion Gaillard, pour revenir
sur cette question, enfin, on n'en est pas sorti d'ailleurs sur cette question des règles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème et qui peut être perçu comme tel par une partie des électeurs d'un deux poids, deux mesures? C'est-à-dire, 2003, par exemple, la France, l'Allemagne, elles s'affranchissent des règles. Il n'y a pas de sanctions. Pas de menace de sanction, je crois pas. En tout cas, il n'y a pas eu de sanction. C'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas là aussi un problème de se dire finalement l'Europe, elle s'en prend à certains pays et pas à d'autres. Et quand on est vraiment avec les mastodontes que sont la France et l'Allemagne, et ben là, ça peut passer quoi. On peut s'affranchir des règles beaucoup plus facilement.
Alors, il faut faire attention parce que la France et l'Allemagne, c'est vrai, n'ont pas été sanctionnées, mais la Commission avait alerté. Simplement, encore une fois, ce sont les États membres qui votent les sanctions. Et là, on est dans petits arrangements entre amis qui fait que personne n'a osé au sein du Conseil condamner la France et l'Allemagne. Ensuite, il faut quand même rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure, l'Italie a joué avec le feu, n'a pas respecté les règles pendant plusieurs années et que la Commission n'a pas condamné. Donc, on peut revenir à « Ah, bah maintenant, ils condamnent, maintenant que c'est des populistes, évidemment. » Mais comme le disait Guillaume Clossard...
Est-ce qu'on peut le faire, justement? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez qu'on condamne aujourd'hui parce que ce sont des populistes?
Non, ça je pense pas, parce que comme vous l'avez suggéré par votre autre question, la Commission est dans une situation très compliquée. Si vous ne condamnez pas, vous asseyez sur les règles et donc vous leur donnez raison de les avoir enfreintes. Et puis si vous condamnez, vous êtes la méchante Commission européenne. Donc en fait, elle est piégée, c'était le titre de l'émission, et ils font ce qu'ils peuvent et ils se débattent un peu avec ça. Donc je crois pas du tout qu'ils le fassent parce que c'est des populistes. Ils le font parce que effectivement les règles sont pas respectées, les prévisions de croissance sur lesquelles le budget est fondé sont même critiquées par le bureau parlementaire italien du budget. Donc ils ont pas trop le choix, et en même temps il y a pas de bonne solution, j'ai envie de dire. Et c'est pareil pour l'article 7, on en parlera.
Benjamin Bass, Stamberger.
Oui, non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un biais politique qui est évident. Vous l'avez dit vous-même, le déficit budgétaire italien est prévu à 2,4. Le déficit budgétaire français est prévu à 2,8.
La dette est à 132%.
Oui, mais la dette française est à 100%. Donc c'est quand même énorme aussi. Il y a quand même une différence de traitement entre les deux pays. Il faut voir que sur les 10 dernières années, l'Italie a quasiment toujours respecté la règle des 3% de déficit budgétaire, alors que la France s'en est largement affranchie de nombreuses fois.
Mais il y a la dette aussi dans les règles.
Dette est largement autodétenue par les Italiens et par les institutions financières italiennes. Donc, ce n'est pas une dette, si vous voulez, qui est en danger financier par rapport au marché financier, parce que les Italiens ne vont pas se débarrasser comme ça de la dette italienne. Donc, c'est une trajectoire. Évidemment, la dette est trop élevée, mais elle a toujours, ou en tout cas depuis très longtemps, elle est élevée, cette dette. Donc, ce n'est pas la dette qui menace la santé financière fondamentalement de l'Italie. La dette, je veux dire, l'Italie, elle était comme ça il y a 5 ans, elle pourrait être comme ça encore dans 5 ans sans qu'il y ait des attaques fondamentalement des marchés financiers contre elle, sauf si effectivement il y a tout un discours anxiogène des institutions européennes qui mettent le feu à la plaine et qui fait que les marchés ne croient pas qu'en dernière instance la Banque Centrale Européenne pourra venir sauver l'Italie. Donc le problème, c'est un problème de soutien des Européens à l'Italie. Il n'y a pas de soutien à l'Italie, et donc si vous voulez, quand vous voulez tuer votre chien, bah, vous dites qu'il a la rage, et puis après les marchés s'acharnent, et puis après on vient ex post avec des taux qui ont explosé pour imposer un programme austéritaire extrêmement brutal. Donc les Italiens, ils ont vu ça en 2011. Il faut savoir qu'en 2011, les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement technocratique de Mario Monti ont fait s'effondrer la croissance. Donc ils l'ont fait, ces mesures structurelles, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, ils veulent suivre leur propre chemin. Et laissons-leur au moins le temps, parce que on disait, ils disent pas ce qu'ils vont faire, mais la croissance, c'est pas, vous faites pas une politique économique, vous avez pas des résultats à l'instant T. Donc laissons-leur le temps de voir si ça fonctionne, et ensuite, éventuellement, si vraiment l'économie plonge, on verra.
C'est ça. Si on se pose la question ce soir, et de la nature des règles, et de la façon dont elles sont appliquées, c'est donc en raison de ce contexte politique qui est assez lourd, disons, dans la perspective des prochaines élections européennes. Les règles européennes, elles sont pas uniquement budgétaires, heureusement. Il y a l'article 7, donc Marion Gaillard, qui a été déclenché. Alors une première fois l'an dernier, c'était fin décembre contre la Pologne, et puis plus récemment début septembre contre la Hongrie pour des questions de non-respect de l'état de droit, hein, avec des configurations un petit peu différentes selon les pays. Est-ce qu'on est là aussi dans la même perspective, c'est-à-dire une Union européenne qui est un peu coincée, c'est-à-dire déclencher cet article? Alors la première fois, c'était la Commission, si ma mémoire est bonne. La deuxième fois, c'est le Parlement européen, mais avec une possible réaction qui ferait, là aussi, monter, les partis nationalistes et d'extrême droite.
Oui, c'est exactement le même processus. Donc l'UE, elle est un peu piégée par la montée de ces gouvernements populistes anti-européens qui jouent, effectivement, je rejoins Guillaume Clossat, même pas avec le feu, parce qu'ils jouent consciemment. Hein, ils n'ont pas peur du feu, en fait, parce que c'est pas leur maison qui brûle, c'est l'UE. Mais... si vous voulez, donc l'article 7, c'est plusieurs phases, et le problème, c'est qu'on a créé un outil qui ne peut pas fonctionner, puisqu'il peut être déclenché soit par un tiers des États membres, soit par la Commission, soit par le Parlement. Mais ensuite, il y a deuxième chose, sur la base de ce déclenchement, il faut que le Conseil des ministres, avec une majorité des 4/5, constate le risque clair d'une violation grave de l'état de droit. On n'est même pas encore dans cette phase pour la Pologne, alors que ça a été déclenché il y a presque un an. Et une fois, même si on constatait ce risque, il faudrait ensuite, pour avoir des sanctions, un vote à l'unanimité des États. Et on sait très bien dans la situation actuelle qu'on n'aura jamais de vote à l'unanimité, puisque la Hongrie soutiendra la Pologne et inversement, sans compter éventuellement l'Autriche ou l'Italie.
Sachant que la sanction maximale, c'est suspension du droit de vote.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, l'article 7, il marche pas déjà dans les textes à partir du moment où vous avez deux pays qui ne respectent pas les règles et qui vont donc se soutenir l'un l'autre.
Donc en déclenchant finalement cet article 7, si je vous suis bien, Marion Gaillard, finalement les institutions européennes, puisque le Parlement européen évidemment en fait partie, elle prend un risque politique important pour quasiment zéro bénéfice, puisque la procédure, elle risque de ne jamais aboutir.
Non, alors je dirais pas ça, je serais pas aussi pessimiste, parce que je me dis, le Parlement, la Commission et le Parlement sont, pour la Commission, la gardienne des traités, pour le Parlement, le représentant des citoyens européens, et donc ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire faire respecter les règles de l'état de droit, qui est la base de la construction européenne et de nos démocraties. Ensuite, si ça n'est pas voté, ils pourront renvoyer les États à leurs responsabilités.
Est-ce qu'il faut une dose de pragmatisme dans le... alors comment dire, dans l'application de cet article 7, question que je pose et à Guillaume Clossat et à Benjamin Mastenberger. Guillaume Clossat pour commencer.
Écoutez, moi je pense que l'application, c'est important quand il y a des violations de les signaler. Et donc l'intérêt de l'article 7, c'est de ne pas laisser passer les choses, parce qu'au moins ça crée un débat public et on en parle. Et on en parle chez vous, on n'en parlerait pas autrement. Et puis par ailleurs, il y a d'autres mécanismes aussi qui permettent de faire respecter l'état de droit. La Pologne a voulu transformer les modalités de désignation des juges de sa cour suprême pour reprendre la main. L'idée est d'avoir des institutions, des cours suprêmes qui sont indépendantes, et c'est la Cour de justice qui a invalidé la décision polonaise. Donc il y a d'autres remparts, et il y a notamment des remparts juridiques. Et puis il y a le débat public. Il y a le débat public, et il y a en Pologne des gens qui considèrent que l'état de droit, c'est très important. Il y a une partie importante de la société civile qui considère qu'il y a un vrai problème, parce que les médias publics ont été mis sous contrôle de l'État, les médias privés en partie aussi, et donc il y a une partie de la population qui a besoin que ce débat soit mené à l'échelle européenne. Et on a vu lors des dernières élections en Pologne que l'opposition remportait toutes les grandes villes. Et ça n'avait rien d'évident, parce que certaines grandes villes auparavant avait été dirigé par le PIS.
Est-ce que vous diriez, vous, Guillaume Clossa,
tout ça aide, hein.
Est-ce que vous diriez, Guillaume Clossa, que ces décisions-là, elles doivent notamment prendre en compte l'impact politique qu'elles peuvent avoir dans les pays concernés. Par exemple, bah, quand il y a le déclenchement de l'article 7 en Hongrie, le fait que ça puisse être perçu par la population, par une large partie de la population, comme une ingérence absolument insupportable de l'Europe.
Mais c'est pas du tout si évident, parce que là, on dit, attention, c'est perçu comme une ingérence. Quand le gouvernement hongrois a voulu faire un référendum sur, en gros, l'interdiction de l'immigration, la majorité de la population hongroise a décidé de ne pas aller voter, qui était la seule manière de rendre illégitime le référendum. Donc les gens se mobilisent et les clivages sont pas si évidents que ça. Le problème, c'est que en Pologne, ces dernières années, il y a eu une réforme un peu silencieuse du système qui était conforme aux règles et qui a permis de faire émerger un pouvoir très autoritaire, qu'il est très difficile de renverser par les urnes. C'est-à-dire que tous les pouvoirs ont été petit à petit captés et ça, l'Union européenne n'a pas pu l'empêcher.
Benjamin Mastenberger.
Oui, alors je pense que malgré tout, il faut faire une distinction fondamentale entre les règles économiques dont on a parlé et qui, à mon sens, sont illégitimes ou en tout cas inutiles et même contre-productives, et puis les règles qui concernent l'état de droit, qui effectivement, là je suis d'accord avec ce qui a été dit, sont des règles fondamentales qu'on doit respecter parce que c'est les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Donc ceci étant posé, après effectivement, il y a une manière de les appliquer intelligemment parce que il y a une manière qui peut être procédurière de dire attention, il y a telle règle qui n'a pas été respectée exactement, sachant que chaque pays a aussi sa manière, sa culture, sa tradition, son histoire, sa manière d'appliquer les institutions et la manière de faire vivre sa démocratie. Donc il faut éviter une forme aussi de paternalisme vis-à-vis des pays de l'Est qui consiste un peu à leur expliquer ce que c'est que la démocratie, quoi. Et surtout, effectivement, dans la période actuelle.
Vous avez l'impression, justement, que la façon dont le Parlement européen, là, en septembre, a justement décidé de le déclenchement de l'article 7, c'est une forme de paternalisme. Parce que là, en termes de légitimité démocratique, là, on ne peut rien reprocher. Le Parlement, oui, il procède directement du vote populaire.
Oui. Non, là, je vous dis, moi, je pense qu'il y a, sur ce point précis, je pense qu'il y a une distinction fondamentale à faire et que si les règles sont clairement transgressées par rapport au fondement de l'état de droit, à ce moment-là, il y a une légitimité tout à fait à réagir. Je pense qu'en l'occurrence, ça, c'était le cas.
Pour qu'elles soient d'ailleurs clairement transgressées, peut-être que ces règles, il faut aussi qu'elles soient clairement comprises. Alors là, je reviens juste un instant aux règles budgétaires, mais je pense que ça peut valoir pour un certain nombre de règles européennes. C'est ce qu'écrivait la journaliste du Monde, Cécile Ducourtieu, en 2014. Elle disait notamment ceci: entre journalistes, on s'échange des photos de documents PowerPoint confiés par des experts de la Commission et on se rassure en constatant qu'on est presque tous au même niveau d'ignorance. Elle ajoutait qu'il y avait aussi un certain nombre de représentants de gouvernement qui ignoraient même précisément ce qu'étaient ces règles. Alors, que dire justement au niveau des citoyens? C'est-à-dire, pour que les règles soient comprises dans leur application, il faut aussi qu'elles soient peut-être un peu plus claires, Marion Gaillard.
Est-ce que vous comprenez toutes les lois françaises, Hervé Gardette? Moi, non, en tout cas. Donc, je crois que oui, il y a une... Enfin, les règles européennes...
Oui, c'est que la légitimité de la loi française, elle n'est pas remise en cause aujourd'hui. Donc, il y a peut-être
un
effort particulier à faire.
Non, mais elle est remise en cause systématiquement pour l'UE parce qu'on fait des approximations ou des caricatures, mais elles sont, de mon point de vue, pas moins légitimes. En tout état de cause, je ne vais pas nier, les règles européennes, elles sont extrêmement complexes. Ça, c'est clair. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus qui devrait être fait, notamment par une simplification des traités. Moi, je plaide pour une constituante, que le Parlement européen se constitue en assemblée constituante et nous ponde une petite constitution lisible par tout un chacun, ce serait pas mal. Mais en attendant, la simplification des textes législatifs, c'est valable, je pense, pour tous les États du monde.
Et bien voilà, le Parlement européen qui se constitue en constituante, c'est pas très joli, hein, comme
non,
phrase.
Non, c'est moche. Bon, en tout cas... Mais l'idée est jolie, en
Merci,
tout cas, j'espère.
Bon, on verra si ça fait partie des thèmes de la campagne qui a commencé. Merci en tout cas à tous les trois, Marion Gaillard, Benjamin Mastenberger et Guillaume Clossa, d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Ledioux, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec la prise de son Jordan Fuentes.